Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Noël Alouzi Toukabambi à la présentation.
Pour présenter leur projet de la sortie de crise à travers le pacte social pour la paix et le vivre ensemble, la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et l'Église du Christ au Congo ECC ont initié une série de consultations auprès des acteurs clés du pays. Ils ont déjà pu parler avec le chef de l'État congolais ainsi qu'avec l'opposant politique Martin Fayulu. Jean-Marc Kabundo, président du parti Alliance pour le changement, n'a pas quitté la prison. Le conseiller national de son parti l'a confirmé ce mardi à Radio Okapi. Guilain Mwanji précise que les sympathisants de Jean-Marc Kabundo se sont rendus à la prison de Makala pour suivre l'exécution de l'ordonnance de la grâce présidentielle. Mais malheureusement, cette activité a été reportée. Christian Bosembe, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, et l'invité de Radio Okapi, il va revenir sur le communiqué du 30 janvier dernier rappelant l'obligation faite aux professionnels des médias de s'abstenir de diffuser les informations sur la guerre dans l'est de la RDC sans se référer aux sources officielles. Bonsoir à tous. Situation sécuritaire à RDC. La Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et l'Église du Christ au Congo, ECC, ont entamé une série de consultations auprès des acteurs clés du pays. L'objectif est de présenter leur projet de la sortie de crise à travers le pacte social pour la paix et le vivre ensemble. Après avoir rencontré le président de la République, Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la Sanko, et le révérend Eric Senga, porte-parole de l'ECC, ont aussi rencontré l'opposant Martin Fayulu ce mardi à Kinshasa. Grâce à Mzati, nous fait le point.
D'après le révérend Eric Senga, porte-parole de l'ECC, il était question de discuter avec Martin Fayulu et lui présenter également l'initiative entreprise par la Sanko et l'ECC. Ces consultations constituent une approche qui nous prépare au pacte social, dit-il. Le porte-parole de l'ECC affirme que l'opposant Martin Fayulu a accueilli avec intérêt cette initiative et a fait des observations des fonds. Nous sommes sortis d'ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale, déclare-t-il. Avec la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, la Sanko et l'ECC disent envisager de résoudre pour toujours cette instabilité à travers un pacte social pour la paix et le vivre ensemble. La Sanko et l'ECC accélèrent leur initiative par les consultations de la quasi-totalité des acteurs clés du pays. Dans la soirée de lundi, les représentants de ces deux églises ont rencontré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, signalant que ce projet a pour finalité le renforcement de la cohésion nationale dans le pays, indiquent les initiateurs.
Sur le plan humanitaire, Bruno Lemarquis, coordinateur des opérations humanitaires en RDC, appelle à l'union des efforts pour faire de la réouverture de l'aéroport international de Goma une priorité urgente. À travers un communiqué de presse rendu public ce mardi, ce haut fonctionnaire onusien met en avant le besoin criant d'aide humanitaire dans cette zone qui fait face à des diverses difficultés. Ronéline Tibonera.
Fermé depuis plus d'une semaine à la suite des combats entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 autour des Goma, les conséquences engendrées par ces affrontements sur la population sont préoccupantes. Parmi elles, ces documents revient sur le nombreux blessés qui nécessitent des soins urgents, les infrastructures médicales qui restent débordées et des milliers de civils toujours privés d'assistance vitale. Alors que les appels à l'aide se multiplient dans la région, cette ouverture permettra entre autres de faciliter l'évacuation des blessés graves, de faciliter l'acheminement de fournitures médicales et la réception de renforts humanitaires actuellement paralysés, indique ses communiqués. Bruno Lemarquis invite les parties au conflit à prendre leurs responsabilités en mettant tout en œuvre pour que les trafics reprennent à l'aéroport international de Goma. Pour lui, cette décision vise à sauver des vies en péril, insiste-t-il. Pour rappel, l'aéroport international de Goma est la seule infrastructure aérienne dont dispose cette ville de plus d'un million d'habitants. La décision portant en suspension des activités de vol avait été rendue publique le 26 janvier dernier.
En ce qui concerne l'éducation formelle, à la suite de la guerre, le calendrier scolaire est perturbé pour les élèves de la ville de Goma. Ces derniers s'interrogent sur leur sort quant à l'année scolaire en cours après 3 semaines sans les enseignements. Les responsables scolaires avaient en effet le 24 janvier dernier suspendu les cours jusqu'à nouvel ordre à la suite de la situation sécuritaire précaire à Goma. Les élèves de Goma plaident pour une action urgente du gouvernement congolais pour sauver cette année scolaire. Denise Loukesson.
À cause de la guerre, je n'étudie plus depuis 3 semaines. Moi, je pense que nous devrons reprendre le cours parce que laisser les enfants comme ça, c'est pas bien. Ils doivent développer de nouvelles choses.
Nombreux élèves et écoliers ont quitté la ville pour se mettre à l'abri aux côtés de leurs parents. C'est le cas de cet élève.
Avec la guerre, j'ai été obligée de fuir, j'ai été obligée de tout abandonner. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien.
Lina Ngavo, finaliste au lycée Amani, s'interroge comme les autres sur son sort.
Là, notre avenir, il est dans le flou. On ne sait pas comment ça va se passer pour nos étapes, nos ambitions. Ça tombe à l'eau parce qu'avec la guerre, tout s'arrête.
Alors que certaines infrastructures scolaires ont été touchées et pillées, les élèves se demandent si reprise des cours y aura et dans quelles conditions ils vont répondre. Gloria Iyemuninga, comme tous les autres élèves, plaide auprès du gouvernement pour une action urgente.
On demande au gouvernement de pouvoir revoir cette situation, que cela soit plus prioritaire, qu'on sache si on va continuer, si on va devoir arrêter, mais qu'on trouve une solution pour notre cas.
Du côté des autorités de l'EPST, aucune communication jusqu'ici. L'Université de Goma, pour sa part, dans un communiqué publié hier, appelle à la reprise des activités académiques à partir de ce 4 février.
S'agissant de l'économie, le marché de la ville de Goma est de nouveau alimenté en produits vivriers venus d'au moins 4 territoires environnants, situés notamment sur les axes Rutshuru-Nyiragongo, Ekale et Masisi. Cependant, la population fait face aux nombreux défis financiers qui affaiblissent son pouvoir d'achat, une situation consécutive à l'occupation de la zone par le 1-23 depuis plus d'une semaine. Bernard Denyangi.
Les vivres en provenance de l'axe Kanyabayonga, Kiwanja, Kibumba, en territoire de Lubero et Rutshuru alimentent désormais les marchés de Goma. D'autres vivres proviennent en grande quantité de l'axe Kichanga et Masisi Centre, en territoire de Masisi, voire même de Minova, en territoire de Kale, au sud Kivu. Si l'ouverture de ces axes d'approvisionnement résout un problème qui était déjà décrié, le pouvoir d'achat des Congolais est grandement affecté par la guerre dans la zone, déplore cet habitant de Goma.
Les routes sont de nouveau ouvertes. La nourriture peut provenir de Minova, Masisi, Rutshuru et entre en grande quantité dans la ville, même si c'est moins cher, si on n'a pas d'argent. Cela ne sert à rien. C'est là parce que les banques sont fermées. Les opérateurs Airtel Money, qui travaillent aussi avec les banques, ne fonctionnent pas. Plusieurs services ne sont pas opérationnels. Plusieurs commerçants ont été pillés et nombreux habitants réduits au chômage. Les opérateurs économiques n'importent plus des marchandises. Tout cela exacerbe la crise économique. Tu peux voir la nourriture sur les marchés, mais tu dors affamé.
Rappelons que depuis une dizaine de mois d'occupation par la rébellion du 1-23, des territoires environnant Goma, la ville est restée asphyxiée et les 4 axes d'approvisionnement en denrées alimentaires sont restés fermés, exacerbant une rareté de produits vivriers dans la ville de Goma.
Pendant ce temps, dans la ville de Beni, toujours au nord Kivu, 2e jour ce mardi, des journées sans activité décrétées par la coordination urbaine de la société civile. C'est pour dénoncer l'agression rwandaise et soutenir les militaires des forces armées de la RDC et les Wazalendo engagés au front contre le 1-23. Les activités socio-économiques sont restées paralysées, mais on signale quelques incidents violents dans la ville. Marc Marofimbo a fait la ronde de la ville. Voici son reportage.
Ce mardi, au 2e jour de la ville morte décrétée par la coordination urbaine de la société civile, les portes des maisons de commerce sont restées fermées tout l'avant-midi. Seules les officines pharmaceutiques ont ouvert leurs portes. Au marché central de Kilokwa, tout comme dans le petit marché de Mayangose, les étalages sont achalandés et la circulation est normale dans les centres de la ville. Pour les organisateurs, le message est passé. Les populations de la ville de Beni sont toutes derrière le gouvernement et les FARDC appuyés par les Wazalendo. Globalement, ces 2 jours de ville morte se sont plutôt bien déroulés, sans casse. Tout au plus, lors de la marche de lundi, quelques jets de pierres par certains jeunes ont été signalés sur l'artère principale de la ville ainsi que quelques barrières érigées sur les avenues du quartier commissariat de Matongé. Mais les forces de sécurité sont vite intervenues pour rétablir l'ordre. Signalons que les organisateurs ont placé cette 2e et dernière journée de la ville morte sous le signe de la méditation et de la prière. Prière pour mettre fin à la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu en particulier et dans toute la partie est de la République démocratique du Congo en général. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nous attendons aujourd'hui le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Elles n'ont pas de place ici, ça doit être clair. Propos de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, répondant à une question d'un journaliste sur le communiqué des occupants rwandais qui demandait un cessez-le-feu humanitaire à Goma. C'était lors du briefing de presse d'hier lundi, co-animé avec son collègue de l'intérieur. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, il n'y croit plus aux communiqués provenant des occupants car ils sont pour la plupart mensongers. Les propos de Patrick Omuyaya sont recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Bon, écoutez, nous sommes coutumiers de ces communiqués pour la plupart mensongers. Mensongers, c'est bien que vous ayez parlé du Rwanda, parce que vous avez compris l'interpellation du vice-premier ministre dès le départ. Il n'est plus du tout question de parler d'un mouvement de marionnettes, de gens qui viennent s'y réjouir lorsqu'il y a des milliers de Congolais qui ont perdu la vie avant que eux n'arrivent pour se réjouir. Je ne voudrais pas revenir dans d'autres détails, mais c'est les paroxysmes du cynisme de voir ses frères mourir de cette façon et venir après. Revendiquer ce qui a été fait par les autres, c'est très dangereux. Et donc, le communiqué, tout ce qui est dedans, est totalement faux. Ce que nous attendons aujourd'hui, par exemple, c'est le retrait de troupes rwandaises. Ils n'ont pas de place en République démocratique du Congo. Ça doit être clair.
En plus bref, la libération de Jean-Marc Kabound, président du parti Alliance pour le Changement, n'a jamais eu lieu. Confirmation de Guilhem Wandji, conseiller national de son parti. Il réagissait ainsi à une vidéo devenue virale sur la toile montrant un cortège de la famille et des sympathisants de Jean-Marc Kabound qui le raccompagnait à son domicile au quartier Kingabwa. Selon Guilhem Wandji, les sympathisants se sont rendus à la prison de Makala pour suivre l'exécution de l'ordonnance de la grâce présidentielle signée depuis le 30 décembre dernier par le ministre d'État et ministre de la Justice. Mais malheureusement, cette activité a été reporté. Au Kasaï Central, les agents et cadres de la Direction générale des recettes du Kasaï Central, DGRCAC, écartés dans un nouvel arrêté du gouverneur, s'indignent d'avoir été virés sans cause. Dans une dénonciation en faite à travers une déclaration écrite, ils soulignent que de nouvelles personnes sans expérience ont été nommées au détriment de la quasi-totalité de ceux qui mobilisent les recettes pour la province. Appelant l'autorité provinciale à revoir sa décision, ces agents et cadres exigent également le paiement de leurs arriérés de salaire. Voici un extrait de leur déclaration proposée par François Kadima.
Les cadres et agents de la DGRCAC se sont mobilisés corps et âme comme un seul homme pour la mobilisation des recettes et donner à la province les moyens pour sa politique gouvernementale. Grande est notre inquiétude de voir ceci ne pas se réaliser et de ne pas recevoir les salaires convertis en arriérés sur ces sans cause ni reproche. La quasi-totalité d'agents et cadres estimés à 99,5% de sa totalité d'effectifs est virée sans procédure. Par contre, nous réclamons ce qui suit, le paiement immédiat et dans un bref délai de nos arriérés de salaire. Ensuite, la réhabilitation pure et simple des agents et cadres remerciés en monnaie de singe sans motif valable. Nous déplorons le respect des normes suivant le recrutement des agents.
Des sources au sein de la DGRCAC rapportent que la direction générale de cette régie aurait proposé au gouverneur de province d'étudier la possibilité de reprendre certains agents et cadres expérimentés.
Actualité internationale.
L'Organisation mondiale de la santé tient depuis hier 3 février son conseil exécutif. La rencontre ira jusqu'au 11 février à Genève en Suisse. L'Agence de l'ONU pour la santé pourrait réduire son budget de 400 millions de dollars en conséquence du retrait de l'organisation de son principal donateur, les États-Unis. Son patron, Tedros Ghebreyesus, a exprimé son regret sur le retrait des États-Unis, premier donateur de l'OMS, espérant que le pays de Donald Trump va reconsidérer cette décision. En temps normal, la délégation américaine est l'une des plus imposantes à cette réunion. Cette année, un seul fonctionnaire a fait le déplacement au comité exécutif, preuve du désintérêt total de Donald Trump pour l'Organisation mondiale de la santé.
L'invité.
Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, est l'invité de ce journal. Il revient sur son communiqué daté du 30 janvier dernier, rappelant l'obligation faite aux professionnels des médias de s'abstenir de diffuser les informations sur la guerre dans l'Est de la RDC sans se référer aux sources officielles. Le président du CESAC a aussi répondu aux accusations selon lesquelles toutes ces mesures sont susceptibles de museler la presse. Christian Bossembe s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Christian Bossembe, bonjour.
Bonjour.
Selon votre communiqué du 30 janvier, les journalistes ne doivent pas diffuser les informations sur la guerre dans l'Est du pays sans se référer aux sources officielles. Il se fait parfois que la source ne communique pas. On risque d'alimenter les rumeurs, ce qui n'est pas bon pour la population. Vous ne trouvez pas, Président?
Alors, je crois que le problème, il est posé à double niveau. Il faut d'abord séquencer ce problème-là pour le comprendre. D'abord, il est important que les journalistes s'informent ou que les journalistes se rassurent de la véracité et de la certitude de leurs informations auprès des sources officielles. Ça, c'est un élément, c'est un fait, c'est un principe et c'est un impératif. Mais maintenant, est-ce qu'il faut amplifier la communication? Oui, il faut que le gouvernement amplifie la communication, il faut que l'armée amplifie la communication pour permettre finalement aux Congolais d'avoir la bonne information, une information crédible. Et c'est pourquoi j'encourage l'armée à communiquer de temps en temps pour permettre aux Congolais d'être informés et de se fier aux informations crédibles. Voilà.
Est-il important de prendre toutes ces mesures actuellement? Ça risque de se retourner contre vous. D'ailleurs, une certaine opinion vous accuse déjà de museler la presse. Que répondez-vous?
Il ne s'agit pas du musellement, il s'agit plutôt d'éviter la manipulation et la désinformation. Vous le savez très bien, à travers le monde, les pays font exactement ce que nous faisons. C'est-à-dire, le pays prend des mesures drastiques lorsque le pays est menacé. Ici, l'enjeu, c'est la souveraineté, c'est l'intégrité territoriale. Et des questions assez importantes, on ne peut pas les traiter légèrement. Donc, dans ces questions, il faudrait prendre des mesures exceptionnelles, puisque les circonstances sont aussi exceptionnelles. Il n'y a aucun musellement, mais c'est plutôt contrôler l'information afin de garantir sa fiabilité et sa sérénité.
Dites-nous, Président, les gens ne comprennent plus finalement. Quelle est la ligne de séparation ou de démarcation entre le CESAC et le ministère de la Communication et Médias concernant la gestion des informations sur la guerre dans l'Est du pays?
Le CESAC, c'est la régulation, c'est-à-dire l'arbitre du contenu, le juge du contenu. C'est une institution d'appui à la démocratie et qui fait la promotion de la démocratie, tout en rappelant que la rébellion, le terrorisme ne sont pas des expressions démocratiques. Et donc, le ministère de la Communication, c'est la réglementation, c'est l'infrastructure, c'est la communication et c'est l'information nationale, sinon l'information officielle. Voilà.
Il y a des réseaux sociaux qui ne fonctionnent pas ces derniers temps, entre autres X, ex-Twitter, ainsi que TikTok. Mais nous suivons les tweets du président du CESAC à longueur de journée. Comment faites-vous pour avoir la connexion?
Non, je suis frappé comme tout le monde. Je n'ai pas de mesures, exceptionnelles. Je suis comme tous les Congolais et j'en souffre aussi. Parce que c'est une mesure générale, eh bien, tout le monde est soumis à ce même principe.
Alors, dites-nous, Président, à quand le rétablissement de ces réseaux sociaux?
Je crois que quand ça sera le moment, on vous informera.
Hier, au briefing, le VPM de l'Intérieur, lui, l'a dit que c'était un problème technique, et bientôt, là, il y aura rétablissement de ces réseaux sociaux.
Il faut faire confiance à ce qu'il a dit.
Alors, vous avez un message à lancer à tous les professionnels des médias en tant que président du CESAC?
Soyons responsables dans les informations que nous diffusons, privilégions les informations allant dans le sens de consolider notre cohésion nationale, allant dans le sens d'encourager nos FRDC, allant dans le sens d'encourager, surtout de compatir avec nos concitoyens qui ont perdu les leurs, mais en même temps, restons dans le strict respect de principes édictés par le CESAC.
Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, je vous dis merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous aussi qui avez bien voulu suivre ce journal qui arrive à sa fin. La mise en onde est assurée par Dieudonné Nyangasa, la coordination est de Jean-Désiré Kanyama, un journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi sous la supervision de Alain Irung Mushinji.